Les radios du CRLO, collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, vous proposent une série de 12 magazines inédits pour découvrir la poésie et la richesse des auteurs occitans. Des troubadours à Félix Castan, un document radiophonique qui évoque la littérature ou la poésie des auteurs occitans du XIIe siècle à l'an 2000. Des chants courtois au Fabulous Troubadour, un projet du CRLO.
Ah oui, je suis volontiers. Je peux poser mon sac.
Ah, c'est quoi, si tu veux, prends une chaise, tiens.
Hein. Je vais me.
Voilà, mais toi, comme. De...
Mets juste en face, en face de toi.
Là, tu as ici, c'est les basses. Ici, c'est la mélodie. Voilà. Le coucou de la gueule, hein. Le coucou de la gueule.
Ce magazine vous propose de découvrir la vie d'une grande personnalité occitane, celle d'Henri Turlan. C'est dans sa maison que nous avons été reçus, de son enfance en passant par sa carrière d'enseignant jusqu'à ses activités de journaliste, danseur, chorégraphe et musicien. Découvrez le portrait d'Henri Turlan, une vie occitane.
Lo mio cucut encar espas bengut. Mas cam vendro passera per l'aiolo, et sus au brac cantara cum un fat.
Donc ça, c'est une bourrée.
Ça, c'est une bourrée, lo cucut de l'aiolo. Il raconte l'histoire, lo mio cucut encar espas bengut, mais quand il viendra, il passera par la gueule, et sur lo brac, il chantera comme un dingue. Et puis après, il n'arrive pas, le cucut. C'est probablement une fille qui chante ça. Elle se demande ce qu'il fait. Et alors, à la fin, elle se demande s'il n'en a pas trouvé une autre, quoi. Voilà.
Et la bourrée, c'est vraiment ta spécialité, parce que sur Radio Languedoc, pendant plusieurs années, tu as co-animé une émission avec Bruno Cécilion, où tu parlais de la bourrée comme danse traditionnelle.
On a fait une vingtaine d'émissions, d'au moins une demi-heure chacune, si c'est pas une heure. Alors moi, je fournissais les aliments, quoi. C'est-à-dire la musique, les commentaires, et je donnais un guide à Bruno Cécilion qui me faisait parler. Et ça s'appelait Dansarelle. J'ai donc ils sont archivés, quoi. C'est l'histoire de la bourrée en musique et en parole. Effectivement. Donc, j'ai été à Radio Clapas, et c'est là que j'ai connu Bruno Cécilion. Et puis, il y a eu Radio Languedoc qui s'est ouvert. J'ai continué à faire une émission qui s'appelait Dansactu. Dansactu, c'était à Clapas, à Radio Clapas.
Quelques pas vers la cheminée.
au-dessus de la cheminée, il y a quatre peintures et deux poupées qui sont des danseurs ou des danseuses. Alors, en particulier, il y a une danseuse de sévillane. C'est pas du flamenco. Attention.
Nuance.
Hein. C'est une danseuse de sévillane qui est peinte par une artiste et avec les mouvements de rotation de ses jupes flamboyantes, de son visage et de son corps, qui sont reproduits de manière remarquable.
Est-ce que justement il y a des similitudes entre les danses traditionnelles du sud de l'Espagne, de l'Andalousie, et quelques danses occitanes? Est-ce qu'on retrouve certains liens?
Je ne l'ai pas retrouvé en Andalousie, par contre j'ai trouvé là, sur la côte cantabrica, il y a une danse à trois temps. À trois temps qui est très proche des airs de bourrée, et quand je les entends ces airs, je peux très bien danser une bourrée, oui. Par contre, le flamenco et les sévillanes, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les sévillanes, c'est une danse de représentation. Le flamenco, c'est une danse d'expression des gens qui sont un peu misérables, pauvres, et qui dansent pour essayer de se nourrir. Et c'est tragique, le flamenco. Et les danses ne sont pas forcément tragiques. Mais il y a aussi d'autres. Il y a la chica de la ventana.
Celle-ci est très... La fille à la fenêtre.
Oui, c'est une peinture faite par ma fille à partir d'une photo. Et elle est remarquable aussi par le drapé. On la voit de dos avec une longue jupe qui... on dirait qu'elle danse, alors qu'elle est immobile, qu'elle s'appuie sur deux meubles. Et puis, alors, il y a celle-ci. C'est une bourrée, la scène. C'est celle que j'ai apprise de mon père quand j'étais adolescent. Et elle est remarquable parce que il y a quatre danseurs, deux hommes et deux femmes. Les deux hommes sont au centre. Et ils sont déjà penchés vers l'extérieur. C'est la force centrifuge qui les amène. Et c'est une danse où on tourne. Et c'est la force centrifuge qui permet aux deux femmes, qui sont plutôt légères, de décoller. Elles sont à l'oblique, elles ne touchent pas terre. Et c'est une danse que j'appelle la scène turlanaise, parce que c'est mon père qui me l'a appris. Et voilà, une peinture faite par ma fille de cette danse, qui est assez remarquable.
Oui, parce que tu en as composé plusieurs, tu es chorégraphe aussi de bourrée.
J'ai organisé des stages, principalement dans mon village où je suis né, Campuac, dans le nord de l'Aveyron, à mi-chemin entre Conques et Estaing. Ce sont des noms assez connus, Conques et Estaing. Et là, j'ai d'abord vu danser mon père avec mes sœurs aînées et une autre personne, des bourrées à quatre. Moi, j'étais enfant, j'avais moins de 10 ans, je les admirais, mais c'était pendant la guerre de 39-45. Et à cette époque-là, les réjouissances étaient interdites même. Le gouvernement de Vichy, du maréchal Pétain, avait introduit un esprit de pénitence. Il fallait se rattraper de temps où il y avait trop de liberté, sans doute. Et on n'avait pas tellement le droit de danser, on n'avait même pas le droit de danser, quoi. Alors que les danses naturelles, populaires, traditionnelles, elles se faisaient naturellement pour les moments de fête ou pour fêter la fin des grands travaux agricoles. Par exemple, quand il y avait les grands travaux des foins, au mois de juin et un peu au mois de juillet, il fallait couper le foin, le faire sécher, le retourner pour qu'il soit bien sec, le charger dans des chariots, puis l'entasser dans la grange. C'était un grand travail. Et quand il était fini, eh bien, les gens faisaient enfin la fête, parce qu'ils étaient fatigués, ils avaient travaillé lourd. Voilà. Donc c'était assez naturel, et implanté parmi la population, c'était les danses traditionnelles. Et moi, ça m'a beaucoup plu, quoi. Et quand j'étais un peu plus adulte, j'ai recherché partout, j'ai regardé, j'ai appris, et je me suis mis à diffuser, essentiellement quand j'ai été à Montpellier en tant que prof. J'étais prof de physique-chimie au lycée Joffre de Montpellier de 1966 à 1994. Si je compte bien, ça fait 28 années. Et j'enseignais la physique et la chimie dans les classes de seconde, première et terminale. Et puis, il y avait des cours d'occitan. Il y avait une loi, c'était la loi d'Aixon, dans les années 48-49, qui permettait l'enseignement de l'occitan dans les lycées et collèges. Et à partir de cette loi, il y a eu un enseignement de l'occitan écrit et des épreuves baccalauréat. Moi, mes cinq premières années, entre 0 et 5 ans, je n'ai entendu que de l'occitan, qu'on appelait patois, par mépris. On ne l'appelait pas une langue, c'était le patois, tandis qu'il y avait le français qui était la seule langue. Voilà, ouais, tout à fait, oui. Et donc, pendant les cinq premières années, je n'ai entendu parler qu'occitan avec mes parents, la famille, tout l'environnement dans le village était. Ne parlait qu'occitan et on pouvait tout dire, tous les mots existaient, les phrases se faisaient selon des règles voisines des règles de la langue française, tout ça venait du latin. D'ailleurs, c'était donc des langues romanes, l'occitan comme le français en était. Voilà. Et puis j'ai appris le français à 5 ans et demi, j'ai commencé à l'apprendre à l'école primaire du village, école primaire laïque. Et je m'y suis mis, et ma foi, ça marchait assez bien, quoi. Mais je pense qu'il sera difficile, dans la langue occitane, de se maintenir, en tout cas en tant que langue vivante parlée. J'ai fait ce que j'ai pu. On se battait beaucoup sur un des accordéons que j'avais, ce n'est pas celui-là, c'était un Castagnari. C'était la meilleure marque des accordéons, fabriqués en Italie, dans les Abruzzes. La province des Abruzzes, et j'en avais un, c'était un Hohner fabriqué en Allemagne, Hohner, H-O-N-E-R, et sur le rebord de mon accordéon, j'avais mis un autocollant, un pégasoulette, comme on dit en occitan, il colle tout seul, quoi, un autocollant, et j'avais mis « Boulen l'Occitan à la télévision ».
Signifie ?
Nous voulons l'Occitan à la télévision. Et nous l'avons obtenu, effectivement, puisqu'il y a des émissions en Occitan tous les dimanches. Et il y a des radios occitanes. Et d'ailleurs, Radio Clapas, bravo Radio Clapas. J'y ai travaillé pendant assez longtemps. Et c'est un mot occitan, bien sûr. Voilà, ici. Je m'amuse aussi à faire ce genre de choses.
Les sculptures sur bois.
Quand j'aime les choses, les bois tordus. Celui-là, il est super tordu.
Ouais, oui, en effet.
Hein, il est quand même pas mal. Hein. Mm. Il n'était pas comme ça au départ. Hein.
Alors peut-être que je me trompe, Henri, mais j'ai quand même l'impression que tu as une forme de fascination aussi pour le mouvement. Oui. Le mouvement au sens large.
Oui, tout à fait, oui. Le mouvement m'intéresse.
Qu'est-ce qui t'intéresse dans le mouvement ?
C'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. À partir du moment où on est en mouvement, on vit. Ce qui m'intéresse, c'est quand on arrive à exprimer quelque chose et à échanger. Échanger. Ça, c'est pour moi. Hein.
Oui.
Alors, ici... Alors, qu'est-ce que je peux te mettre si je trouvais le perlimpinpin folk ? Mais il y a tellement longtemps que... Je l'avais passé, je l'avais donné à Radio Clapas, hein, il y avait quelqu'un qui était venu. Ou bien, alors, par exemple, tiens, avec ce qu'on peut passer que j'aime bien. C'est celui-là, oui, Marc Perron.
Marc Perron.
Oui, Marc Perron, oui, l'accordéon, excellent. Oui. Donc, maître CD, c'est un CD, ça.
Oui. tout à l'heure, tu parlais un petit peu des radios. C'est un peu le comment dirais-je, l'une des seules ressources encore où l'occitan est diffusé. Il y a des radios spécialisées, il y a Radio Languedoc, sur laquelle tu as travaillé également. Il y a des chaînes de télévision également, mais on a peut-être l'impression que c'est un peu les seuls vecteurs de la langue occitane encore présents, puisque par exemple, la langue occitane n'est plus enseignée, en tout cas elle est moins que ce qu'elle n'était quand toi tu étais professeur.
Elle est moins enseignée, il y a de moins en moins d'élèves qui s'inscrivent parce que son impact sur la population et la manière de vivre d'aujourd'hui diminue beaucoup. Mais quand même, au moment où j'y étais, il y avait une série, c'était la série A, numéro 3, A3. C'était une série avec trois langues vivantes, et dans les langues vivantes, en particulier au lycée Joffre, mais pas seulement, à Clémenceau, au Mas de Tess, il y avait un enseignement d'occitan que j'ai assuré pendant une quinzaine d'années, les 15 dernières années de mon parcours comme prof. J'enseignais aussi, en plus de la physique et la chimie, j'enseignais en plus l'occitan, et j'ai même été chargé de l'épreuve écrite au baccalauréat, parce qu'il y avait une épreuve écrite. Je ne sais pas, je pense qu'elle existe toujours, cette épreuve écrite. Mais il y a de moins en moins d'élèves, et pour ouvrir une classe d'occitan, il faut qu'il y ait un nombre minimum d'inscrits.
C'est pour ça aujourd'hui, par exemple, que l'occitan est davantage enseigné par des associations que dans des établissements scolaires.
Eh bien, il y a eu les fameuses calendrettes. C'était les écoles primaires ou écoles maternelles, où il y avait déjà l'occitan enseigné en classe primaire. Ça continue, hein. Il y a toujours des calendrettes un peu partout, on en parle beaucoup dans les radios associatives occitanes, et ça se maintient, mais ça quand même, ça diminue. Je peux citer, en fait, il y avait l'écrivain Max Rouquette, connu, archi connu, il a été question de lui pour le prix Nobel de littérature. Dans les années 85, il a failli avoir le prix Nobel de littérature. Et il était montpelliérain, il habitait rue de l'Ancien Courrier, et j'avais sa petite fille comme élève. Et un beau jour, j'ai demandé à la petite fille si elle pouvait faire venir son grand-père. Et il est venu, et ça a été un festival pour nous, hein. On l'a fait lire des textes qu'il avait écrits, en particulier sur Vers Paradis, qui est un de ses livres les meilleurs que je connaisse.
Alors, une question, Henri, sur les éditions Saltarella, qui sont des éditions que tu as fondées,
exactement,
et qui te permettent de publier tes ouvrages.
Oui, pour pouvoir publier mes ouvrages, j'ai le premier, Riku Samatanger, j'ai failli être publié chez Calman Lévy. J'ai passé deux commissions positives, la troisième on m'a pas retenu, donc je me suis dit, si je veux les publier, il faut que je les publie moi-même. Donc j'ai créé une association, Saltarella, dans laquelle j'ai inclus mon activité de conférencier, d'écrivain, et d'organisation de stages, de formation. Et c'est ça, les éditions Saltarella. Voilà.
Tu as, en quelque sorte, presque un livre pour chaque période de ta vie, pour chaque pan de ta vie.
J'en ai écrit et j'en ai publié 5. Le premier que j'ai publié, je l'ai appelé Riku s'en va en guerre, parce qu'il y avait une chanson, Malbrou s'en va en guerre, mi-anton, mi-anton, mi-anton. Alors là, c'était pas Malbrou, mais Riku.
Riku, c'est qui Riku?
Riku, c'est le diminutif d'Henri. Parce que je m'appelle Henri, je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, n'est-ce pas?
Ouais. Comme disait l'autre.
Effectivement. J'ai raconté tout. Tous mes souvenirs du temps de la guerre, y compris ce qui se passait assez normalement. On n'en a pas trop souffert, parce que on avait de quoi se nourrir. Toutes les familles avaient un domaine agricole plus ou moins élevé. Nous, on avait un tout petit domaine, mais enfin, on se nourrissait normalement avec les produits de la ferme. Et d'ailleurs, on aidait beaucoup des gens qui étaient à Paris, parce que le nord de l'Aveyron était connu pour une grosse immigration vers Paris. Et on avait tous de la famille à Paris, ils venaient se ravitailler, on tuait le cochon à 4h du matin, parce qu'il y avait des contrôleurs à la solde de Vichy, et il fallait avoir tué le cochon et rentrer les morceaux avant qu'ils viennent contrôler. Et c'était des souvenirs assez spéciaux. Et voilà comment s'est passée la guerre. Donc j'ai raconté cette histoire depuis ce moment-là jusqu'au jour de la libération. J'avais passé le concours de bourse à Rodez le 3 mai 1945. Je n'avais pas le résultat. Et je reviens, je suis resté 3 jours à Rodez chez mes sœurs. Et je reviens le 7 mai à Campuac. Et le 8 mai, c'était la grande fête de la libération. Donc mon livre s'arrêtait là. Et voilà. C'est le livre que j'ai diffusé le plus. C'est glorieux. J'ai diffusé 2500 exemplaires. Sans étant auto-éditeur et à la force de ma langue pour le diffuser.
Et donc après, tu as écrit d'autres ouvrages aussi ?
J'en ai écrit d'autres, oui. J'en ai écrit un sur, parce que j'ai eu les documents sur l'histoire d'un couple des années entre 1900 et 1914. Les années qu'on appelait la Belle Époque. Et un couple, une histoire tragique, bien sûr.
Émilie et Florentin.
Hein ? Émilie et Florentin, oui. C'est celui-là, c'est ce livre. Et puis j'en ai écrit d'autres. Le dernier que j'ai écrit, c'est sur le lycée Joffre en particulier. Il s'appelle « Les potentats de la citadelle ». Les potentats, c'est ce qui détient la puissance. Et c'est aussi les petits potes entassés dans la citadelle, c'est-à-dire que on n'y parle pas que des grands chefs ou des profs, on y parle aussi des c'est assez humoristique. J'ai traité ça de manière à qu'on puisse rigoler un peu.
Les ouvrages sur la bête du Gévaudan.
Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé encore.
Voilà.
Une de tes autres spécialités, tu veux qu'on s'assoie
Oui, ben, c'est comme tu veux.
On peut se rasseoir.
Alors, sur les livres les plus précieux, oui, voilà.
Eh bien, allons-y.
Alors, pose la question, si tu veux, on s'assoit.
Alors, une des autres grandes facettes de ta vie, Henri, c'est la bête du Gévaudan, à laquelle tu t'es énormément intéressé. Tu as tenu bon nombre de conférences à son sujet. Comment est née cette passion, un petit peu, cette fascination même, peut-être, pour cet épisode historique ?
Eh bien, c'est un peu le hasard. Quand j'étais prof, le premier poste que j'ai eu, que je n'avais pas demandé, puisque j'étais étudiant à Toulouse, j'avais passé le CAPES à Paris, rue de la Pompe, dans le 16e, s'il vous plaît. C'est là que j'ai passé le CAPES définitif. Et la première nomination, ça a été au lycée Chaptal à Mende. Bon, ben, je connaissais un peu, il se trouvait que ma jeune femme avait de la famille mendoise. Et étant au Gévaudan, j'avais entendu parler de la bête du Gévaudan comme un mythe, mais je ne savais rien du tout là-dessus. Et il se trouve que je m'y suis intéressé et qu'il y avait un prêtre, l'abbé Pic, Xavier Pic, « La bête qui mangeait le monde en pays de Gévaudan et d'Auvergne ». Ce livre venait de sortir, écrit par le curé Pic, l'abbé Pic, curé de Serverette dans le nord de la Lozère. Et je l'ai rencontré à cause de ce livre qu'il venait de publier, et je lui ai fait parler, et il m'a dédicacé ce livre. C'était tiens, à M. Henri Turlan, avec l'expression de ma sympathie, Serverette, le 14 août 1976. Je l'ai lu et ça m'a intéressé beaucoup parce que c'était une étude scientifique, historique, de l'histoire de la bête et qui démystifiait beaucoup. C'était vraiment la bête du Gévaudan, c'était un mythe, quoi. Une légende et la réalité était terrible, terrible. Et oui, bien sûr, actuellement, les loups, c'est sacré, il ne faut surtout pas les tuer, il faut les protéger, c'est des animaux très sympathiques. Et ils ne sont pas herbivores, hein, je vous signale. Ils sont carnivores. Hein. Et aujourd'hui, les loups sont partout. On en a repéré un la semaine dernière à Saint-Martin-d'Alafou, sur le Larzac, là, dans un village où j'ai fait un stage de bourru. J'ai organisé un stage de bourru à une époque. Et ils sont pas loin, hein. Moi, je dis, des loups, il y en a de toutes les tailles. Quand on pense Sarkozy, Nicolas Sarkozy, 1m60, je crois. Et il y avait son ministre des Affaires étrangères, Denis de Villepin, 1m98. Ben, il peut y avoir des différences de taille avec les loups, quoi. C'est pareil, quoi. Dans les loups, il y avait des loups très grands et sans doute féroces, parce que le fait qu'ils se soient attaqués à des êtres humains, il y en a toujours eu. Mais avec cette densité et dans un espace assez limité, ça s'est jamais vu. C'était horrible. Et il faut imaginer la détresse des gens qui habitaient cette région, qui s'étendaient à tout. Et les enfants qu'on envoyait garder les troupeaux de vaches dans les prés, au milieu des bois, comment ils devaient être quand ils y allaient. Et pourtant, il fallait bien y aller pour sortir les vaches, les faire manger. Voilà l'histoire de la bête.
Et en guise de dernière partie donc, de cette interview, de cet entretien avec toi, Henri, on va parler de ton passé de journaliste sportif, puisque tu as commenté des matchs.
Effectivement, j'ai fait les commentaires des matchs de football, de rugby et de handball, pour les clubs de Montpellier, à savoir le football, le MHSC, le rugby, le MHR et le MHB, le handball. Et c'était des commentaires en langue occitane, du début à la fin. Et c'était pour moi très amusant parce que un match, qu'il soit de rugby, de foot ou de hand, il est indécis, personne ne connaît le déroulement ni le résultat final. C'est donc quelque chose de très vivant. Et comme il y avait très peu de gens qui avaient fait ça, je me demande si quelqu'un avait déjà fait ça. Je me suis mis à essayer mes commentaires d'abord pour le football. Et ensuite, j'ai élargi au rugby et au handball, et avec un vocabulaire que j'ai dû créer aussi, parce qu'il y a les événements qui ont un nom. Par exemple, un corner au football, eh ben, c'était le recantou, le corner.
Par exemple, là, si tu devais simuler un commentaire de match en disant deux, trois phrases en occitan, des phrases, on va dire, bateau, cliché, d'un match de sport, qu'est-ce que ça donnerait ?
Eh bien, à cause du butobala. Le butobala, à cause de but en meloupé. Da questo momento, a cause de sa fontaine qui a preso la balle, il y a la défense en face, que le rousseau reste. La balle a qui c'est mal incrustate de l'autre. La colonne de Montpellier est dominante. Et arrive à qui prend te, à qui a une toque contre Montpellier. Une toque 1-0 contre Montpellier.
C'est d'actualité en plus, ce que tu viens de dire.
Toutes les équipes de Montpellier ont perdu leur match, y compris le handball. Ici, j'ai alors la collection des dictionnaires, depuis le trésor de Philippe Brige jusqu'au français occitan, occitan français. Il y a toute une étagère où il n'y a que des dictionnaires ou des expressions, des livres en occitan, un peu de tout, Rouquette, Jean Boudou. Voilà, ici.
Comment est-ce que tu te définirais ? Est-ce que tu es un journaliste, un historien, ou tout simplement, entre guillemets, un passionné de la langue occitane qui a fait tout ce qu'il a pu pour l'entretenir, la diffuser, la faire aimer aussi ?
Un peu tout ça, un peu de choc. Et effectivement, la danse, ça a été un de mes moyens d'expression
artistique,
dans lequel j'ai poussé les choses assez loin, mais où je me suis régalé. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je suis en train, comme j'ai passé les 90 ans, je suis en train d'écrire ce livre-là, entre sagesse et passion. La sagesse, c'est peut-être... oui, j'étais un enfant sage à l'école, au lycée. Oui, j'étais considéré comme quelqu'un de sage. Ma sagesse, quelquefois, est un défaut, quand même. Et passionné aussi, bien sûr.
Et pour conclure cet entretien, Henri, est-ce que tu as un mot occitan préféré à nous donner?
Un mot occitan préféré à me donner? Eh bien, il y en a un que j'utilise bien et qui est très sonore. Uno escarabisundo.
Qui signifie?
Eh bien, une cabriole par-dessus la tête. Escarabisundo.
Escarabisundo.
Une escarabisundo. Mais quand je passe d'un commentaire à un autre, je fais une escarabisundo. Voilà, un mot qui est... Il n'y a pas beaucoup qui le connaissent. Et dans les dictionnaires, il n'y a qu'un dictionnaire où je l'ai retrouvé. Pourtant, j'ai fait combien d'escarabisundo quand Terry Pichunet, que ma maire membraillable, a raqué sous le grandet, membraille tout sous l'et.
Quand j'étais enfant.
Oui, ma mère mettait les pantalons. Maintenant que je suis grand, je les mets tout seul.
Des troubadours à Félix Castan, un document radiophonique qui évoque la littérature ou la poésie des auteurs occitans du XIIe siècle à l'an 2000, proposé par le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.